Bon, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette étude sur les défis. Et très content de vous avoir, de vous voir. Je vois déjà qu'il y en a plusieurs qui sont déjà connectés. Donc, à vous tous, que Dieu vous bénisse. Et on espère passer un bon temps avec le Seigneur, avec sa parole. Un temps béni, un temps riche, parce qu'il y a toujours de belles choses et de grandes choses qu'on peut retirer de la parole et qui continuent d'être d'actualité dans nos vies. Alors, Dieu est bon, Dieu est avec nous et voilà pourquoi nous continuons de l'avant. Donc, à vous tous, salutations, que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre grâce ou remercier. Rendre grâce, c'est peut-être un peu trop... trop solennel. Mais remercier les gens qui sont dans l'obscurité, qui permettent qu'on puisse avoir ce temps ensemble. Et je tiens à remercier la sœur Dorothée, la sœur Patricia aussi, qui était là au début, la sœur Dorothée qui a pris la relève. Donc, on a de la relève dans l'Église. Amen! Et également... le frère Gilles qui est toujours là et le frère Yann qui à distance également nous supporte et permet que nous puissions avoir cette diffusion-là. Je pense que c'est important de pouvoir souligner, reconnaître le service, la valeur et aussi les efforts que tous nos bien-aimés font. Donc, vous me voyez ici devant, à côté du piano, mais il y a d'autres personnes qui sont également en service ce soir et qui l'ont été depuis le début. Ça fait 20 semaines, mais même avant aussi, avant qu'on commence les études. Donc, que Dieu bénisse tous ceux et celles qui servent le Seigneur d'un cœur joyeux et reconnaissant. Donc, on va prier, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur pour que Dieu puisse nous parler, Dieu puisse nous instruire encore plus. Et nous continuons, dans le fond, avec le livre de Marc. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Donc, élevons tous la voix et prions. Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon, tu es réel, tu es vivant, tu es victorieux. Tu es tout, Seigneur. Et en toi, nous avons tout. En toi, Seigneur, nous sommes complets. En toi, Seigneur, nous sommes parfaits. Et Seigneur, nous voulons nous approcher davantage de toi pour te ressembler plus en tant que serviteur et servante. Pour te ressembler plus, Seigneur, selon ton cœur, selon ton caractère, selon ta pensée. Et merci, Seigneur, de nous parler encore une fois ce soir. Que toutes les bien-aimées qui sont, Seigneur, connectées en ce moment et ceux qui le feront plus tard, Seigneur, puissent recevoir cette bénédiction spéciale et unique qui provient, Seigneur, de ta parole et qui nous instruit, nous corrige, nous transforme à ton image. Merci, Seigneur Jésus, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, nous allons lire maintenant dans Marc au chapitre 6. Tiens, on est toujours au chapitre 6. Ça fait comme une éternité. Mais voyez tout ce qu'on peut sortir ou faire ressortir de la parole de Dieu. Donc, on reste encore dans le chapitre 6 et on va lire à partir du verset 45 au verset 52. Donc, Marc, chapitre 6, verset 45 au verset 52. Nous lisons. Aussitôt après... il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Donc, cette semaine, nous allons étudier un peu la parole sur ce passage quand Jésus marche sur les eaux. Mais juste avant, on va faire un bref résumé de la semaine dernière, où il a été question de l'événement, la première multiplication des pains. Et ce qu'on a dit, dans le fond, la semaine dernière, c'est que on voit là pour la première fois que les disciples sont appelés apôtres. Et par cela, on comprend qu'il y a une progression dans le ministère, il y a une progression dans la vie de ces gens-là. Et on a vu depuis le début des enseignements qu'il y a eu certains moments dans la vie et dans le ministère de Jésus où il y a eu des éléments qui ont démontré qu'il y a eu une progression et qu'il y a eu une croissance. Et ça, c'est important parce que l'Église doit croître comme corps de Christ, mais également chacun d'entre nous individuellement. En tant que disciples de Christ, nous devons avoir ces étapes, ces faits marquants qui nous indique qu'il y a une croissance, qu'il y a une progression dans notre vie. Jésus n'a jamais stagné. Jésus n'a jamais fait du surplace. Jésus a toujours avancé, progressé. Et c'est la même chose pour l'Église et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, dans le fond. Donc, le fait d'être appelé apôtre et non seulement disciple marque une croissance. Cette croissance amène aussi une nouvelle réalité dans la vie des disciples, parce qu'ils ne sont plus spectateurs simplement, ils pensent à l'action, ils sont impliqués dans le service. Et on voit qu'ils étaient tellement impliqués que, suite au retour de mission, Jésus les avait envoyés en mission deux par deux, et alors qu'ils reviennent, eh bien ils continuent et sont en train d'être impliqués dans le service avec Jésus, et tellement qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Et donc là, on voit qu'il y a une réalité aussi qui accompagne cette croissance-là, où les gens sont impliqués dans le service et ça impose des sacrifices. Ça impose des sacrifices sur la personne, ça impose de renoncer à certaines choses pour le bien du service. Et on a vu également que il y avait beaucoup d'allants et de venants, que les serviteurs, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être au carrefour de la vie, où est-ce qu'on voit toutes sortes de personnes, où est-ce qu'on accompagne les gens à travers toutes les situations de la vie. Et si vous regardez vraiment, si vous faites un bilan, normalement, quand vous servez le Seigneur, vous êtes appelé à toucher la vie des gens dans différents événements de leur vie. Et ça, c'est une grâce, parce que Jésus était comme ça aussi. Donc, de pouvoir faire partie de ces gens-là, ou de juste être un instant avec ces gens-là dans un moment de leur vie, et de servir ces gens-là, faire en sorte que nous sommes, l'Église est au carrefour de la vie. Et le fait également que Jésus et les disciples étaient auprès de Jésus et par la suite ils allaient auprès des gens et qu'ils allaient auprès de Jésus et qu'ils allaient auprès des gens, nous enseigne également que la vie du serviteur, c'est une alternance entre être dans la présence de Dieu, développer une communion avec Dieu, mais également être avec les gens et servir les gens. Si on pourrait résumer la vie d'un serviteur, on pourrait dire facilement que c'est ça. Une alternance entre être avec Dieu et être avec les gens. Parfois, il faut sacrifier du temps de repos, il faut sacrifier de la privacité, et même des fois sauter un repas. Dans mon cas, moi, j'aime beaucoup la lasagne. C'est juste parce qu'après la leçon de la semaine dernière, on a eu une très bonne conversation, le frère Gilles et moi, sur la lasagne. Mais bon, devait être là. Mais des fois, le service nous amène également à sauter un repas, à sauter deux repas même. Et que c'est tout à fait normal d'être rendu dans cette situation-là lorsqu'on est en train de servir. Et on mentionnait un petit peu, en train de s'imaginer un peu le scénario quand les disciples pensent qu'en arrivant de l'autre côté, ils vont pouvoir avoir la tranquillité, avoir la paix, avoir un peu de privacité et pouvoir manger quelque chose tranquille, assis, reposé, et que là, ils s'approchent du bord et qu'ils voient la foule qui les attend. Quelle réaction a été la leur et quelle réaction aurait été la nôtre? On voit également dans ce passage-là que Jésus a un regard différent de la situation par rapport à ses disciples. Jésus est ému de compassion, alors que les disciples ont plutôt tendance à vouloir se débarrasser de ces gens-là, de la foule. Lorsqu'ils disent à Jésus, OK, ben Jésus, là, il commence à être tard, renvoie-les. Et dans le fond, qu'est-ce que les disciples sont en train de dire? C'est que, tu sais quoi, Jésus, que leur besoin soit le problème de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas notre problème. Alors que Jésus leur dit, lui étant ému de compassion, voyant que c'était comme des brebis sans berger, il leur dit, non, non, vous allez leur donner à manger. Donc, on va s'occuper, ou vous allez vous occuper de cette situation. Son besoin est ton besoin, son problème est ton problème. Et combien de fois, nous, dans notre vie, on a pelleté dans la cour du voisin? On a pelleté le problème de quelqu'un dans la cour du voisin en disant, ah, je ne veux pas m'en occuper, je n'ai pas envie. Justement, j'ai un repas qui m'attend. Ou justement, je veux un peu de privacité maintenant. Je veux avoir du temps pour moi. Je veux avoir mes loisirs. Je veux avoir ci, je veux avoir ça. Et il y a des gens qui sont là dans le besoin. Et combien de fois, nous, on a négligé, on a été négligent dans notre service, tout simplement pour notre propre plaisir ou notre propre bien-être. Et la question qui nous était posée est quel regard nous avons? Est-ce que nous avons un regard comme Jésus, un regard de compassion, un regard de foi, ou avons-nous plutôt un regard de négligent ou un peu de gestionnaire, où est-ce qu'on se met à analyser la chose et on se dit, ben, il n'y a aucune profitabilité, ou il n'y a aucune possibilité pour nous de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir marquer la différence. Et ça, c'est important parce que bien des fois, on se dit, ça va être quoi ma valeur? En qu'est-ce que moi je vais pouvoir aider ces gens-là? Et l'important, c'est que ce n'est pas ce que toi tu as amené, c'est ce que Jésus va amener à travers toi. C'est d'où l'important d'avoir un regard de compassion et de foi. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que toi et moi on peut amener à ces gens-là. Le monde a besoin de savoir ce que Jésus peut leur amener à travers toi et à travers moi. Donc, quel regard avons-nous? Et est-ce que avons-nous été négligents dans le passé par rapport à une brebis perdue, à une brebis qui avait besoin de soins? Et finalement, on a vu que le service, selon ce passage-ci, pourrait se résumer en trois étapes. La première, c'est l'organisation. Jésus organise la chose, là. Il dit, faites-les asseoir en groupe de 50, en groupe de 100. Il organise. Il y a un certain degré d'administration lorsqu'on va servir. On ne se lance pas tout croche, tête première, sans avoir réfléchi un peu. Savoir penser à vraiment quel est le besoin et de quelle façon on pourrait organiser la chose. Deuxièmement, c'est la prière. Jésus bénit le pain. Il prie, mais il prie pour bénir les gens. Il prie pour que ce qui va être distribué, pour que le service qui va être rendu soit un service qui va bénir. Pas qui va résoudre, pas qui va calmer la chose, pas qui va juste permettre qu'on passe à autre chose. Non, qui va bénir, qui va apporter une dimension céleste, surnaturelle dans la vie de quelqu'un qui vit un besoin, qui vit un problème, qui est dans une difficulté. et finalement, c'est la mise en action. Donc, tout ça, on a vu la semaine dernière. Pour aller plus en profondeur, je vous invite à visionner la vidéo. Donc, verset 45, on continue, on poursuit et déjà, ce qui est frappant, et dans le fond, ce qui est frappant dans tout le livre de Marc, c'est que les événements se précipitent. C'est comme une chose après l'autre, un événement après l'autre. On dirait que ça n'arrête jamais. Il y a un rythme assez soutenu dans la narration que fait Marc. Et ça, c'est frappant. Parce que là, par exemple, aussitôt, c'est-à-dire, les disciples étaient dans la barque, arrivent de l'autre bord, ils pensaient pouvoir se reposer un peu. Eh bien non, il y a la foule qui les attend. Jésus se met à enseigner. Et puis là, pendant sûrement des heures, le soir arrive et là, Jésus fait la manifestation, ou plutôt opère le miracle de la multiplication des pains. Donc, c'est les disciples qui sont allés servir. Donc, c'est eux qui ont dû se promener entre les groupes de 50 et de 100 et de distribuer les pains, les poissons et de ramasser ce qui est resté, tout ça. Donc, ils ne se sont pas arrêtés non plus. Et là, aussitôt, ben, on embarque dans quelque chose d'autre. Il y a d'autres événements qui arrivent et ça n'arrête pas, dans le fond. Donc, premier mot qu'on retrouve dans le verset 45, c'est « aussitôt ». Donc, voilà, Marc maintient un rythme rapide des faits et gestes de Jésus. Et on lit dans le verset 45, « aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre bord, ou de l'autre côté. » Deux choses que je veux qu'on remarque ici. Bien sûr, aussitôt. Aussitôt qui, en grec, c'est le mot « euthéos », qui veut dire directement, immédiatement, tout de suite après. Donc, sans délai. Il n'y a pas une pause. Les disciples n'ont pas eu le temps de prendre un recul, puis de contempler ce qui était arrivé, d'intégrer ce qu'ils ont vu, les enseignements de Jésus. Non, tout de suite, il n'y a pas eu de pause. Il n'y a pas eu de pause café, il n'y a pas eu de pause syndicale. Tout de suite, aussitôt, immédiatement après. Et ce qui a attiré mon attention également, c'est que Jésus obligea. C'est-à-dire que là, ça s'est précipité là, beaucoup. Là. Dès que les gens ont été satisfaits, ont mangé, ils étaient rassasiés, aussitôt, Jésus dit à ses disciples avec instance, donc il les oblige d'embarquer, de monter sur la barque et de s'en aller tout de suite de l'autre bord. Et pour le verbe « obliger », c'est le terme en grec « anakazo » qui veut dire « forcer ». Obligé par la force, par des menaces même, par instance. Donc, pour nous faire voir qu'il y avait quelque chose, il y a une raison pour laquelle Jésus fait ça. Aussitôt, ils ont à peine déposé, j'imagine, ils ont à peine déposé les paniers restants au pied de Jésus, que là, Jésus les oblige. Les forces, avec instance, les commandes de monter dans la barque et de les précéder de l'autre côté. L'évangile de Marc ici ne nous donne pas beaucoup de détails de pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça? Mais on trouve la réponse dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 6 et le verset 14 et 15 qui fait également la narration qui fait le récit dans le fond de ce même passage-là nous dit « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. C'est le même événement, mais avec un point de vue différent, un angle de vue différent. Marc relate des choses et Jean en apporte d'autres. Jean ici ne mentionne pas que Jésus a forcé les disciples à monter sur la barque. Il dit plutôt que Jésus s'est retiré vers la montagne. Et Marc aussi dit que Jésus, après avoir forcé les disciples à monter dans la barque et après avoir renvoyé la foule, il s'est retiré sur la montagne pour prier. Mais Jean nous parle de quelque chose. Et quelque chose qui a sonné l'alarme dans l'esprit de Jésus. Et cette alarme-là, c'était que Jésus savait, voyant les pensées dans les cœurs des gens, il voyait que quelque chose allait se tramer à ce moment-là et qu'il représentait un piège, une menace, et qu'il devait agir promptement. Et la menace était que ces gens-là avaient l'intention de faire Jésus roi à ce moment-là. Et on appelle le piège invisible. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus, sachant, la Bible ne dit pas Jésus voyant. Donc, il n'y avait pas de signe visible qui avait ce mouvement au milieu de la foule. Donc, les disciples n'ont rien vu. Donc, avant que les disciples puissent voir un mouvement de la foule ou puissent comprendre ce qui était en train d'arriver dans la foule, Jésus est intervenu. C'est ça que la Bible dit, Jésus sachant et non pas Jésus voyant. Donc, avant que la foule ne se manifeste. Et donc, Jésus fait cela avec ses disciples pour éviter que ceux-ci soient, dans le fond, entraînés dans ce mouvement qui est un mouvement populaire. C'était la population qui, là, disait, ben on va prendre Jésus, puis ça va être lui notre roi. Ça va être lui notre chef. Alors qu'il y avait déjà l'Empire romain et que sur chaque province, il y avait des dirigeants, il y avait des rois ou il y avait le tétrarque, il y avait des gens en pouvoir établis par Rome. Et donc, pour éviter que les disciples soient entraînés dans ce mouvement-là populaire et je dirais même politique, Jésus a fait cela. Mais Jésus a fait cela aussi pour autre chose, pour éviter, dans le fond, que les disciples soient tentés, qu'il y ait une semence de tentation, sachant que l'homme est orgueilleux, sachant que la vanité est forte dans la nature humaine, sachant qu'il peut avoir un piège là plus tard avec les disciples, il coupe ça raide. Puis il dit, allez, embarquez là, on va monter sur la barque. Puis on se rejoint l'autre bord. Donc Jésus, voyant ce piège-là invisible qui allait causer du tort à ses disciples, il prend cette initiative-là, il réagit de cette façon-là, parce qu'il savait que ce type de reconnaissance est un piège. Et des gens peuvent facilement embarquer dans le service. Et il y a des gens qui servent le Seigneur, puis on l'a déjà parlé il y a quelques semaines en arrière, il y a des gens qui servent dans l'Église, il y a des gens qui vont servir pour chercher la reconnaissance. Pour que les gens disent, oh wow, toi, tu es si bon, merci, tu es si, tu es si ça, tu es si... Et là, oh oui, on se nourrit, nous, de ces belles paroles, de ces flatteries, on se sent important tout d'un coup. Et ça, c'est un piège. Jésus n'a jamais accepté d'être reconnu de la sorte. Et nous-mêmes, on ne doit pas accepter et on doit fermer la porte. Vous voyez, la réaction de Jésus, la réponse de Jésus, c'est que cette question-là, elle est non négociable. On ne doit pas laisser la moindre marge de possibilité, même si ce sont des choses qui peuvent être douces à l'oreille et douces à l'orgueil aussi. Jésus est catégorique. Jésus est catégorique. Donc, en sachant ce qui était en train de se préparer dans le cœur de ces gens-là, Jésus renvoie ses disciples en premier, renvoie la foule et il se retire. Donc, avant même qu'il y ait quoi que ce soit qui commence là, on va arrêter ça. Et on ne va pas permettre que cela vienne influencer le ministère. Donc, devant le piège qui était en préparation, qu'est-ce que Jésus fait? Il préfère envoyer les disciples. Puis, encore là, marquez une chose, et ça c'est important. Jésus, voyant, sachant, non pas voyant, mais il voyait les cœurs, mais sachant qu'un piège se préparait, qui aurait pu être fatal pour la vie des disciples, il préfère envoyer les disciples se promener, soit de façon de parler, mais aller faire une promenade sur la mer au milieu d'une tempête. Jésus, par la suite, se retire et Jésus va prier. Voilà ce que Jésus fait. Et qu'est-ce que cela doit nous dire? C'est que Dieu voit et Dieu sait les pièges qui peuvent être dangereux, qui peuvent être vraiment fatals pour nous. Et pour nous, ça va peut-être changer un petit peu notre façon de voir les choses, parce que Jésus préfère nous envoyer au milieu d'une tempête que de rester là et de tomber dans un piège. C'est-à-dire que la réponse de Jésus peut être l'épreuve. Tu peux être en train de passer par une épreuve, et c'est la manière avec laquelle Jésus est en train de te protéger de quelque chose d'autre. Tu peux être en train de passer par une difficulté, mais Jésus est toujours en contrôle. Parce que Jésus contrôle ta barque, parce que Jésus contrôle la tempête, parce que Jésus a ta vie entre ses mains. Et Jésus n'a pas de problème de te placer dans une situation qui va empêcher que ton regard soit mis sur le piège ou que tu sois attiré vers quelque chose d'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il y a un piège dangereux. Il y a quelque chose, il y a une trappe que si jamais tu vas là, tu vas tomber et tu vas périr. Et c'est ta vie, c'est ta foi qui va sombrer. C'est ton ministère, c'est ta famille, c'est ta carrière va être détruite. Et pour protéger cela, Jésus te place temporairement dans une situation où ce qu'il y a un peu de vent, où ce qu'il y a la pluie, où ce qu'il y a une tempête. Est-ce que l'épreuve peut être un moyen de protection? Je crois que oui. Et Dieu est sage dans sa façon d'agir. Et des fois, nous, on se plaint parce qu'on est au milieu de la mer, on est au milieu d'une tempête. On se plaint, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et dans le fond, Jésus est juste en train de nous protéger de quelque chose de pire. C'est pour cela que il est bon de louer Dieu même dans la tempête. Il est bon d'être reconnaissant vers le Seigneur, même lorsque les choses ne vont pas bien. Parce que Dieu est toujours en contrôle. Parce que Dieu est celui qui calme les tempêtes. Dieu est celui qui mène notre barque à bon port. Donc, pour nous protéger d'un piège, il y a l'épreuve, mais il y a aussi le retrait. C'est important de se retirer, de ne pas rester là, dans la situation, dans le contexte, dans le milieu, dans la relation qui représente un piège. Si l'environnement, si une relation, si un travail, si un milieu représente un piège, il faut s'enlever d'être là. Lorsque Joseph voyait que la femme de Potiphar lui courait après, ce n'est pas arrivé une fois seulement, c'est arrivé plusieurs fois où est-ce que la femme a tenté d'avoir quelque chose avec Joseph. Et Joseph, toujours, s'en allait, évitait. Joseph n'est pas resté là pour dire, « Oh non, Seigneur! » Non. Joseph se retirait. Donc, apprenons à nous retirer également. Apprenons à être obéissants à Dieu lorsqu'on sent, des fois notre esprit sent qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de malsain ici. Il y a quelque chose qui représente un danger. Sachons nous retirer quand il faut le faire. Et la troisième, c'est la prière. La prière également pour nous garder dans la tentation et nous garder de tomber et nous fortifier dans le Seigneur. Ce qui est important aussi à retenir par rapport à ce piège, c'est que, dans le fond, c'est une tentation qui revient, mais qui revient un petit peu différemment et qui revient beaucoup plus subtilement que la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire de Jésus roi. La première fois, on l'a vu il y a plusieurs semaines en arrière, c'est lorsque, dans Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9, c'est lorsque Jésus est tenté. Lorsqu'il est envoyé dans le désert et qu'il est tenté pendant 40 jours par le diable. Et Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9 nous dit que le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire, je te ferai roi. » Jésus, « Je te ferai roi de toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Donc, ce n'était pas la première fois qui avait cette offre-là. Et ça n'a pas été la dernière non plus. Il y a eu d'autres occasions également où on a voulu faire Jésus roi. Et à chaque fois, Jésus, il évitait cela. Donc, le diable fut le premier à vouloir faire Jésus roi. Et c'était à l'opposé la dernière chose que Jésus désirait. Parce qu'il comprenait bien c'était quoi son ministère et son but sur terre. Ça nous rappelle également un événement plusieurs années plus tard avec Paul, lorsqu'il se retrouve à Lystre, et qu'après avoir fait un miracle, les gens de la ville sont dans l'étonnement et dans l'admiration, et ils déclarent que Paul était Mercure et que Barnabas était Jupiter. Ils disaient, c'est les dieux, là. C'est nos dieux qui sont là autour de nous, qui sont là avec nous. Et ils étaient prêts à faire des sacrifices. Et Paul et Barnabas ont dû déchirer leurs vêtements, puis par des paroles, essayer de les convaincre de poste de Paul et les voir, les considérer comme des dieux. Et la Bible dit que ça a été proche. C'est-à-dire qu'ils ont été proches d'être adorés, de faire des sacrifices tellement que les gens étaient impactés par le service et le ministère de Paul et de Barnabas. Et ces deux hommes leur disaient, on est des hommes comme vous, on est des hommes comme vous. La quête de reconnaissance, ça c'est quelque chose qu'un serviteur doit faire beaucoup attention, qu'une servante. Puis quand je dis serviteur, ok, j'emploie le masculin, mais ça applique à tout le monde, là. Désolé, c'est juste pour parce que là, si je dois dire serviteur et servante, à chaque fois, ça va être un peu long. Si on emploie les deux genres, féminin et masculin, à chaque fois, ça va être un petit peu long. Mais on comprend. OK, ça s'applique à tout le monde. La requête, la quête de reconnaissance. Et un autre élément important, plus historique et social, c'est que, OK, on n'oublie pas, on est toujours en Galilée. Jésus est toujours en Galilée. La Galilée, historiquement, est un endroit, est un nid de rébellion. C'est un endroit où il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements de rébellion politique. Et les gens étaient vêtus sur le piton lorsqu'il fallait, parce qu'il y avait des mouvements révolutionnaires, des mouvements populaires d'insurrection. Galilée était très connue pour avoir cette tangente-là dans sa culture, dans sa façon d'être. Donc, Jésus se serait vu mêlé dans une controverse. Jésus se serait vu mêlé dans un conflit direct avec Hérode, mais aussi avec Rome. Et ce n'était pas le but de Jésus. Et une chose est sûre, c'est que si Jésus avait pris cette tendance, ou cette tangente politique, eh bien, tout son ministère, tout son service aurait été complètement anéanti. Mais complètement anéanti. Si Jésus avait permis, sachant qu'est-ce que les gens voulaient faire avec lui, si Jésus avait permis, ne serait-ce qu'un petit peu, que cela se manifeste et que lui en prenne pour son propre bénéfice, c'est tout son ministère qui aurait été anéanti. D'où la raison, bien-aimé, faire attention avec la reconnaissance, de faire attention avec la politique, de faire attention avec les mouvements populaires. Jésus n'est pas là-dedans. Jésus n'est pas là-dedans. Jésus a dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Donc, Jésus force ses disciples, pauvres disciples, peuvent pas manger, pas le temps de manger, pas le temps de se reposer. Puis là, ils se font pousser dans la barque. Puis, allez-y, allez l'autre bord. Et oups, ils se retrouvent dans une tempête. Fait que là, ils doivent ramer. Donc, c'est pas fini le travail. Jésus renvoie la foule avant que le mouvement populaire et politique, que le parti politique prenne naissance. Et qu'on nomme Jésus roi ou chef de ce parti politique-là. Et Jésus se retire pour prier. Et vous savez quoi? Je pense que Jésus avait besoin de prier. Jésus avait besoin de prier parce que, vous savez, on a beaucoup vu dans le chapitre 6. On a vu beaucoup de choses. Et si on fait un petit résumé, on va comprendre. Vous allez comprendre pourquoi humainement, Jésus, à ce moment précis, avait besoin de prier. Jésus avait commencé à faire face à l'hostilité des Juifs religieux. On l'avait vu déjà. Les Juifs religieux, les leaders religieux avaient commencé à avoir de l'hostilité envers lui et même ils avaient commencé à parler de le tuer. Jésus a vécu aussi un épisode assez difficile dans son propre patelin, à Nazareth. Lorsque il est allé là et il a fait face au rejet et à l'incrédulité, face à sa propre identité, face à lui-même, pas juste ce qu'il fait, ses œuvres, non, lui-même, sa personne a été attaquée, a été mise à terre complètement à Nazareth. On a vu avec le passage où est-ce que Jean-Baptiste est mis à mort par Hérode. On dit que Hérode entend parler de Jésus et de ce qu'il faisait, des prodiges, et de que sa renommée était tellement grande et tellement importante, qu'Hérode commence à avoir des inquiétudes des soupçons par rapport à Jésus. Et il dit, c'est sûrement Jean qui est ressuscité. Et rappelez-vous d'une chose qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'est que Hérode avait peur de Jean. Donc, si Hérode avait peur de Jean et que Jean était à ses yeux la résurrection de Jésus, eh bien, Hérode aurait peur ou probablement avait des soupçons pas mal effrayés avec Jésus. Et imaginez-vous un peu si Jésus avait accepté d'embarquer dans ce mouvement-là. Ça aurait été une guerre civile, ça aurait été une instabilité, ça aurait été horrible ce qui serait arrivé là avec un gouverneur qui craint, qui voit une figure montante et qui voit une rébellion directe contre lui. Et Jésus, humainement parlant, aurait pu se dire, « Wow, OK, Jean qui me précédait, Hérode l'a pris, il l'a tué, il a coupé la tête, sans procès, sans un traitement juste, il n'y a pas eu de justice là-dedans, il n'y a juste eu que de l'abus de pouvoir et de l'injustice. Et lui, moi qui viens après lui, eh bien, quelles sont les chances de finir de la même façon que lui? Quelles sont les chances que je me fasse arrêter par Hérode? Quelles sont les chances qu'on me coupe la tête à moi aussi? Humainement parlant, parce que nous, on a cette pensée-là aussi. Que si mon prédécesseur ou mes prédécesseurs ont échoué là ou ont vécu ceci, automatiquement, ce qui m'attend, c'est la même chose. Que si mon père, est tombé malade ou a eu le cancer, moi aussi, je vais avoir le cancer. Ceux qui étaient avant moi ont vécu des choses, automatiquement, moi aussi, je vais les vivre. Jésus également était profondément touché, je pourrais même dire affecté, par son fardeau pour les âmes. Jésus avait une compassion pour les âmes incroyable, qui, je pense qu'à bien des égards ou à bien des moments, ce fardeau-là était lourd sur ses épaules. Et voilà qu'en plus de ça, la foule se rajoute et la foule veut le faire roi. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je vois ça. Je vois tout ça qui exerce de la pression sur Jésus. Je me dis, ah oui, Jésus avait besoin de prier à ce moment-là. Tout ça, c'est dans le chapitre 6, hein, en passant. Peut-être à part l'hostilité des Juifs religieux, ben, quoi qu'on en voit un petit peu, mais on pourrait facilement voir ça dans ce qu'on a vu dans le chapitre 6 jusqu'à maintenant. Beaucoup de pression sur lui. Beaucoup de pression et de tension sur lui. Et vous savez quoi? On pourrait changer le nom là. Tu pourrais mettre ton nom à la place de Jésus. Et je suis sûr que tu serais capable de remplir également chacune de ces bulles. Par rapport à des choses qui font une pression dans ta vie. Et peut-être même que tu en as plus que 5. Et Jésus avait besoin de prier. Et nous aussi, on a besoin de prier. Je suis sûr que cette diapositive-là pourrait servir pour toi, puis changer, l'appliquer à ta propre vie et tu trouverais ta vie dans le fond là-dedans. Et tu comprendrais l'importance de prier, de prendre un temps de prière. Jésus l'a fait. Une fois qu'il a réussi à retirer, à renvoyer la foule, il s'est mis à l'écart tout seul. Il est monté à la montagne et il a prié. La Bible est précieuse parce que les détails qui sont en elle nous parlent et nous enseignent. Verset 46, Jésus dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Les montagnes ont une importante signification dans la Bible, ont une signification spirituelle. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les montagnes ont un rôle à jouer. Quelques exemples à vous donner vite. Sur le mont Morija, c'est là où Abraham fut éprouvé par Dieu par rapport à Isaac. Et Abraham, plus tard, donna le nom de cet endroit, Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel, l'Éternel pourvoira. C'est là où est-ce que, au sommet de cette montagne, au milieu d'une épreuve difficile, Abraham est descendu de cette montagne avec son fils, mais avec une révélation de l'identité de Dieu, que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit la loi, reçoit toutes les instructions par rapport à comment ils devaient mener leur vie, de comment ils devaient préparer le culte à Dieu. Et c'est là aussi où ce qu'il expérimente la grandeur, la puissance. Et c'est là où ce qu'il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Moïse expérimente de grandes choses dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï, tellement qu'en descendant, son visage n'était plus le même, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Sur le mont Carmel, là où Élie fait face au prophète de Baal, et il y a ce duel entre Dieu et Baal et entre le prophète Élie et les faux prophètes. Et Dieu répond à la prière d'Élie en envoyant du feu pour marquer de façon claire, nette, que le seul Dieu en Israël est l'Éternel. Et c'est sur une montagne aussi où est-ce que Jésus appelle ses disciples auprès de lui et qu'il leur enseigne à propos du royaume. Et au retour de Jésus également, Jésus va venir se placer sur une montagne. On le voit plus tard dans Apocalypse, dans la fin des temps. Aller sur la montagne, monter en hauteur, veut dire qu'on laisse de côté les choses terrestres. On laisse de côté les choses humaines, les choses de ce monde, les choses de cette vie, pour monter à la rencontre avec Dieu. Quand on prie, on ne fait pas juste faire des petites prières qu'on répète à la mitraillette. Non, bien-aimé. On va à la rencontre avec Dieu. Quand on prie, on se dispose pour monter à la montagne. Et ça veut dire que tout ce qui touche le terrestre, tout ce qui touche notre quotidien, notre vie sur terre, reste. On le met de côté. Il doit y avoir ce temps où est-ce qu'on arrête tout. Il y a des gens qui, bien souvent, sont tout le temps en prière, mais font la vaisselle, sont en prière, conduisent la voiture, sont en prière, sont au travail, sont en prière. C'est bien, mais pour monter la montagne, il faut laisser de côté tout le reste pour aller à la rencontre avec Dieu. monter à la montagne, c'est expérimenter aussi, comme bien des hommes avant nous, des gens de foi l'ont expérimenté avant nous, c'est expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. C'est expérimenter la personne de Dieu. Qui est Dieu vraiment? Quelle est la dimension de sa gloire, l'étendue de son pouvoir? Lorsque je me prépare pour la prière, si je me dispose à ça, je ne vais pas juste pour sortir ma liste d'épicerie et dire, Seigneur, j'ai besoin de ci, de ci, de ça. Seigneur, Jésus, non, merci, amen. Non, bien-aimé. On va à l'expérience de sa personne, de la grandeur de son amour, de la richesse de sa gloire. On va à la rencontre avec Dieu lorsqu'on monte la montagne. Et lorsqu'on monte la montagne, vous le faites, et je ne sais pas combien de photos, de vidéos j'ai vues cette dernière semaine. Je pense que la moitié de Montréal, cette fin de semaine, est partie dans la nature faire de la randonnée en montagne. Parce que dans les réseaux sociaux, c'était plein. Mais bref, si ceux qui ont pu, tant mieux. J'ai rien contre ça. J'aime ça, la nature, moi-même. Avec Carmen, on aimait ça. Puis on espère, avec les enfants, pouvoir faire des randonnées en montagne également quand ils seront un petit peu plus grands. Mais quand on monte, notre perspective, notre vision change. Notre regard est différent parce qu'on est en hauteur. Donc, toutes les autres choses se voient plus petites. Donc, lorsqu'on monte, notre regard change. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on monte la montagne de Dieu pour prier, lorsqu'on laisse les choses terrestres, nos soucis, de côté, et qu'on monte dans la présence de Dieu, et qu'on expérimente sa grâce, sa puissance et sa gloire, notre regard est transformé, notre perspective, notre perception est changée, ce qui fait en sorte qu'on voit les choses terrestres, on ne les voit plus de la même façon, on a un regard différent par rapport aux choses terrestres qui meublent notre vie, par rapport aux problèmes, par rapport aux pressions, aux choses qui font de pression sur notre vie, par rapport aux choses qui causent de l'angoisse et de l'anxiété dans notre vie. Lorsqu'on monte la montagne de Dieu, on a un regard différent parce qu'on a le regard de Dieu. On expérimente Dieu, mais on commence à voir les choses comment Dieu les voit. Et lorsqu'on monte la montagne, c'est qu'on acquiert ce regard de Christ, mais de Christ ressuscité, parce que Christ a tout vaincu. Christ est vainqueur. Donc, en étant dans cette présence, c'est le regard du Christ qui a vaincu la mort, du Christ qui a vaincu le monde, du Christ qui a vaincu le péché. C'est ce regard que j'ai besoin d'avoir sur ma propre vie. C'est ce regard que j'ai besoin d'avoir sur les différentes situations de ma vie. C'est ce regard, cette perception que je dois avoir. Et cette perception-là, ce regard, je le reçois seulement lorsque je monte à la montagne et que j'expérimente Dieu dans mon temps de prière. Et l'autre élément qu'on peut ressortir de lorsqu'on monte à la montagne, c'est qu'en étant là, dans la présence de Dieu, en expérimentant sa personne glorieuse et puissante, en ayant un nouveau regard, notre vie se remplit de lui également. Et c'est tellement essentiel d'avoir une vie remplie de Dieu. C'est tellement important d'être dans la plénitude de Dieu. On l'a dit bien souvent, l'importance de la dimension spirituelle, la vie de l'esprit en nous, d'en être rempli. Et comment est-ce qu'on en est rempli? C'est par la prière, bien-aimé, mais pas n'importe quelle prière. C'est la prière qui nous amène à expérimenter Dieu, à laisser de côté les choses terrestres, à laisser de côté toute la liste des choses qu'on a à faire dans la semaine. On laisse de côté. Seigneur, je prends du temps avec toi. Je veux monter à la montagne. Je veux expérimenter ta gloire. Je veux avoir un regard différent. Seigneur, je veux être rempli de toi, de sorte que quand je vais redescendre, les choses ne vont plus être pareilles. Les choses ne vont plus être pareilles. Je ne vais plus voir les choses de la même façon. Donc, la question pour toi et pour moi, c'est, ou plutôt pour toi, pour moi aussi, mais la façon comment c'est écrit, c'est pour toi. As-tu besoin de rencontrer Dieu? As-tu besoin de rencontrer Dieu? Et l'autre question, c'est, as-tu besoin d'avoir un regard nouveau ou un nouveau regard sur ta vie? Vous avez vu la diapositive, avant celle-ci, présentait ce qui exerçait de la pression là, sur Jésus. Et Jésus avait besoin de monter à la montagne et prier pour descendre, renouveler et différent. Verset 48. Il est dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. C'est-à-dire, Jésus voit les disciples. Il voit qu'ils sont sur la mer encore. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de misère à ramer ou beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il dit qu'il voulait les dépasser, c'est pas que Jésus allait comme faire une course, puis les dépasser, puis leur dire « Ah, je suis plus vite que vous ». Non, non. C'est que Jésus allait se mettre devant eux, au-devant d'eux. Étant donné que le vent était contraire, Jésus allait se mettre entre le vent et la barque. C'est ça que ça veut dire par les dépasser, qu'il allait se mettre au devant, entre le vent, contraire et la barque. La Bible nous donne un détail ici que à la quatrième veille, qu'est-ce que veut dire la quatrième veille selon la tradition ou les croyances juives? La nuit, elle est séparée en quatre veilles. La nuit commence à 6 heures du soir et se termine à 6 heures du matin. Et donc, la quatrième veille correspond à la plage horaire entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Les autres veilles sont de 6 heures à 9 heures, de 9 heures à minuit, de minuit à 3 heures et de 3 heures à 6 heures. Ce qui veut dire que Jésus est resté en prière seul pendant longtemps. Ce qui veut dire également aussi que les disciples ont resté longtemps sur la barque. Et qu'ils ont ramé pendant longtemps. Et ce qu'on nous dit, c'est que la distance, là où est-ce qu'ils étaient, la distance d'un bord à l'autre est d'environ 4 km. Donc, 4 km pendant plusieurs heures, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment avancé beaucoup. Et la nuit était pas mal avancée, parce qu'ils étaient, c'était rendu 3 heures, 4 heures du matin, quand Jésus les a vus. Et que Jésus, étant sur la montagne, a vu le besoin, a vu que ses disciples, a vu que ses amis étaient en difficulté, qu'ils avaient besoin d'aide. Et Jésus se mit en action. Ce qu'on doit comprendre dans tout cela, c'est que, oui, il faut monter à la montagne. Oui, il faut avoir un temps de prière. Oui, c'est important de prier. Mais il y a un temps pour agir aussi. Il y a un temps pour prier. Mais il y a un temps pour agir. On ne peut pas rester tout le long, toute notre vie, au sommet de la montagne. Il faut descendre. Il faut se mettre en action. Des fois, on est insécure. Et par notre insécurité, on se dit, ah, peut-être que Dieu, si, peut-être que Dieu, ça, peut-être que ce n'est pas le temps. Mais hey, écoute, tu as fait le tour, là. Jésus veut maintenant que tu descendes. Parce qu'il y a des gens en besoin. Et il ne faut pas utiliser la prière comme un prétexte ou dire, ben moi, mon service, c'est de prier, d'être dans la présence de Dieu. Oui, ça fait partie du service. Mais il faut aller aider les gens qui sont dans la tempête. Il faut aller aider les gens qui sont dans le besoin. Et Dieu veut que ce soit toi qui ailles. Donc oui, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir aussi. Ce qu'on comprend également ici, c'est que Jésus renoue avec sa mission. Jésus s'est mis à l'écart, s'est mis pour prier. Il a laissé de côté tout. Il l'a laissé de côté pour être un instant en prière, quelques heures. Mais Jésus, par la suite, il renoue avec sa mission. Il renoue avec son ministère. Et le plus important, c'est que en marchant sur les eaux, cette image symbolise quelque chose de tellement important pour nous. C'est que Jésus met les tumultes de la vie sous ses pieds. Toutes ces bulles qui étaient autour de lui, qui représentaient des menaces, des inquiétudes, de la pression, c'est les tumultes de la vie. C'est les tumultes de la vie de Jésus. Mais parce qu'il est allé prier, Jésus était prêt à servir et à aider ses amis parce que tous ces tumultes avaient été mis sous ses pieds. Tous les tumultes de la vie avaient été mis sous ses pieds. Jésus marcha sur les eaux parce qu'il alla prier sur la montagne avant. Et tout comme Christ, la prière nous permet. Elle nous permet de mettre nos tumultes, tes tumultes, sous Christ, afin que tu puisses aller aider les gens dans le besoin, afin que tu puisses servir les gens. Ça, c'est important pour chaque serviteur, parce qu'on vit tous. On vit tous des défis, on vit tous des tumultes. Mais si on ne prie pas, ou si on donne comme excuse les tumultes de la vie pour ne pas servir Dieu, on est dans la faute. Des tumultes, il y en aura, et on vit dans un contexte rempli de tumultes. Raison de plus pour monter à la montagne de Dieu. Et dans le fond, Dieu ne veut pas que tu sois emporté ici et là par les tumultes de la vie. Il veut que toi et moi, on soit comme Christ et qu'on marche par-dessus tous les tumultes de notre vie. Marcher par-dessus. C'est là ta position, c'est là ma position. C'est là ma vie et ta vie. Oui, il y en a des tumultes. Oui, il y a de la pression. Oui, il y a toutes sortes de choses incertaines, d'inconnues qui peuvent causer beaucoup d'anxiété. Le monde est anxieux. L'Église ne peut pas être anxieuse. L'Église doit marcher sur les eaux. L'Église doit marcher sur les eaux. Tu dois marcher sur les eaux. Moi, je dois marcher sur les eaux. Sinon, je ne pourrais faire aucun service. Sinon, tu ne pourras servir et aider personne parce qu'il faudra t'aider à toi. Cette semaine, c'est une invitation pour que le surnaturel vienne dans ta vie. Parce que marcher sur les eaux, c'est qu'à travers la prière, tu invites le surnaturel à se manifester dans les tumultes de ta vie. Marcher sur les eaux veut dire que tu es au-dessus des affaires de la vie et que tu n'es pas emporté ici et là par elles. Tantôt, c'est ici, mais après ça, il y a une autre pression, puis une autre angoisse, puis les finances, puis la famille, puis l'école, puis le COVID, puis la pandémie, puis le confinement, puis le déconfinement, puis le reconfinement, puis la zone rouge, puis la zone orange, puis la zone mauve, je ne sais pas. Puis si je tombe malade, puis si je perds mon travail, puis là, la pression de ci, la pression de ça. Le Seigneur veut que toi et moi, on marche par-dessus cela. Qu'on marche, pas qu'on tombe, pas qu'on se traîne, pas qu'on s'engouffre, qu'on marche. Et comment est-ce qu'on va marcher sur ces choses-là? C'est en allant à la montagne de Dieu avant. En ayant ces temps-là de prière qui sont essentiels. Ça veut dire marcher avec foi et avec assurance à tous les jours. À tous les jours. Pas juste quand c'est la conférence, puis là on se sent bien parce qu'on est monté à la montagne, puis pendant 3-4 jours après la conférence, on marche sur les eaux, puis après ça, ça commence à, à devenir un petit peu faible, puis là on commence à faiblir. Non, quotidiennement. Marcher sur les eaux. Et c'est important pour serviteurs, pour l'homme, la femme qui veut servir Dieu, de vivre cela. Pour être un serviteur efficace. Parce que quelqu'un qui s'engouffre ne sera pas capable. Quelqu'un qui s'engouffre dans les vagues, quelqu'un qui s'enfonce dans les vagues, dans le tumulte, ne pourra pas aller aider quelqu'un. D'où l'importance, bien-aimé, de que tous les tumultes de la vie, moi j'en ai, tout le monde en a, soient sous nos pieds, soient sous les pieds de Christ, pour que nous on puisse aller de l'avant. Et on vit dans un contexte où est-ce que le niveau d'angoisse, le niveau de stress, le niveau de tumulte est passé à 2-3 coches plus élevées. Mais on doit être au-dessus de ces choses-là. Et de marcher avec foi et avec assurance. Et vous savez quoi? Le miracle se manifeste en étant là, dans l'action, en étant sur les eaux, pas sur la montagne. Des gens pensent que le miracle va s'opérer dans la montagne. Non, il faut descendre. Il faut faire face à la musique. Il faut faire face à ce qui est notre pression, à ce qui cause l'angoisse, à ce qui source. Il faut y faire face. C'est là où ce que Dieu va opérer le miracle. C'est là où ce que Dieu va manifester le surnaturel. Je vais me dépêcher un peu parce que l'heure a avancé. Dans Matthieu, chapitre 14, verset 28, Matthieu nous relate quelque chose d'autre, qu'on le connaît tous. Pierre demande à Jésus de le faire venir vers lui. Il dit, ordonne. Ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, ben viens-t'en. Et Jésus donna la parole pour que Jésus donna la parole, Jésus donna la révélation, Jésus donna la réponse pour que Pierre puisse marcher avec foi sur les tumultes de sa vie. Mais parce que Pierre a porté son regard sur le vent et qu'il a constaté que le vent contraire était fort, il a commencé à avoir peur, il a perdu sa foi, il a perdu sa confiance dans la parole et dans Christ. Et ce qui fait en sorte qu'il... Voyant que le vent, les tumultes de la vie étaient plus importants, il a commencé à s'enfoncer. Et s'enfoncer, il a dû demander de l'aide au Seigneur. Pierre n'avait pas un regard comme Christ sur cette tempête parce que Pierre n'était pas allé à la montagne pour prier. Jésus était allé. Pierre n'était pas allé. Et c'est là qui est important, bien-aimé, parce qu'on est bien souvent comme Pierre. On veut faire les choses, mais sans la prière. On veut, oui, Seigneur, donne-moi une parole, je vais y aller. Puis, Seigneur, donne une parole, parce que Dieu est bon. Mais notre regard n'a pas été changé. Donc, même si on reçoit une parole, on a besoin d'être transformé à la montagne de Dieu pour que cette parole puisse nous permettre de faire Dans le fond, la longue route. Pierre a marché un peu, mais il s'est enfoncé par la suite. Le problème, ce n'était pas la parole. Le problème, c'était l'incrédulité ou la peur de Pierre. Pierre est sorti de la barque en ayant peur. Jésus est marché sur les eaux sans aucune peur, parce que son regard n'était plus le même par rapport aux situations, aux tumultes de sa vie. D'où l'importance, bien-aimé, d'aller à la montagne de Dieu et d'être transformé là par le Seigneur. Et faire face aux tumultes actuels et futurs sans avoir été au sommet de la montagne, ça équivaut à échouer. Ça équivaut à s'enfoncer dans nos problèmes et ne pas être en mesure de pouvoir servir comme il convient. Et la question est, marches-tu sur les eaux ou es-tu bien enfoncé dans tes problèmes? Marches-tu sur les eaux? Ou est-ce que tu te trouves enfoncé au genou, à la ceinture ou au cou? Tu es en train de te débattre, de t'épuiser pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Tu es peut-être couvert complètement. Puis tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas sur quoi focusser en premier. Laisse-moi te dire que Jésus te tend la main ce soir. Jésus te tend la main pour te secourir, mais pour te donner un rendez-vous, pour te donner un rendez-vous à la montagne de Dieu. Jésus vient à ton secours ce soir, mais te secours pour que tu ailles à la montagne de Dieu et que tu expérimentes sa gloire, que tu apprennes à laisser de côté les choses terrestres, que tu apprennes que ces choses-là ne sont pas aussi importantes que les choses célestes. Il faut les laisser de côté. Et des fois, il est nécessaire de prendre juste le temps avec Dieu à la montagne et d'expérimenter sa personne, sa puissance, et sa gloire et son amour. Et d'avoir un regard différent sur toutes les situations, sur ta propre vie. Et d'être rempli de Dieu. De sorte que lorsque tu redescends, tu n'es plus la personne qui s'enfonce à chaque fois, à chaque pas que tu fais, à chaque décision que tu prends, tu t'enfonces. Non, tu es ce serviteur, cette servante qui, comme Jésus, marche sur les eaux et peut aller aider des gens dans le besoin dans la barque. Alléluia. Donc, en résumé, sachant qu'un piège n'est pas loin, Jésus ordonne à ses disciples, les oblige à monter sur la barque. Et aujourd'hui, on voit, et probablement que pour toi, ça va, pour certains peut-être, ça va faire réfléchir un peu. Mais la porte de sortie de Dieu peut être l'épreuve. Mais il y a aussi le retrait. Et surtout la prière. La tentation qui revient constamment pour Jésus et qui va revenir constamment pour toi et moi, c'est la recherche d'être admiré, c'est cette recherche d'être reconnu, d'être valorisé, de se sentir supérieur aux autres, plus important aux autres. Faisons attention avec ça. Parce que si Jésus avait embarqué dans ce mouvement-là, si Jésus avait pris cette tangente politique, tout son ministère aurait été anéanti. Jésus avait besoin de prier. Humainement, dans sa nature humaine, Jésus avait besoin. Et combien il a eu besoin de prier, il a passé des heures avec tout ce qui se passait dans sa vie, juste dans le chapitre 6. Il avait besoin de prier. Et nous, on a besoin de prier aussi, bien-aimés. Mais pas des petites prières en train de laver la vaisselle. On parle de prendre du temps, de monter la montagne. L'Église, le monde a besoin d'une Église qui va marcher sur les eaux. Pas d'une Église qui va s'enfoncer. Une Église qui va s'enfoncer, les gens vont voir ça et vont dire, ben, où est le bénéfice? Où est l'avantage? En quoi tu es différent? Mais lorsqu'ils vont voir que toi et moi, on marche sur les eaux, sur les tumultes de la vie, Dieu va pouvoir faire de grandes choses. Juste avec notre vie, notre témoignage. Avec notre foi. Donc, aller à la montagne, rencontrer Dieu, expérimenter Dieu, avoir un regard selon Christ et être rempli de lui. As-tu besoin de rencontrer Dieu, d'avoir un nouveau regard? Après la prière, bien, c'est l'action. Mettons nos tumultes de la vie sous Christ afin de servir et invitons le surnaturel à faire partie de notre quotidien. Cette semaine, je t'invite de tout cœur. Je t'invite parce que c'est ce que je te dis, c'est personnel. Moi, je l'ai vécu cette semaine. D'inviter le surnaturel dans mon quotidien. Et j'ai vu le surnaturel. Et je t'invite à toi également. Invite. Monte à la montagne. Et expérimente ce miracle dans ta propre vie, dans ce tumulte. Et ce n'est pas une émotion. Je ne parle pas d'une émotion où est-ce que tu te sens bien, tu te sens léger, et tout d'un coup, tu vois que bon, finalement, ce n'est pas si grave. Non, c'est grave. Mais tu marches sur ça. C'est grave. Mais tu marches avec assurance et le surnaturel est avec toi et se manifeste. C'est de ça qu'on parle ici. Pas d'un sentiment qui est temporaire, qui est éphémère. Aujourd'hui, tu te sens bien, demain, tu te sens mal. Aujourd'hui, tu te sens bien, demain, Legault et Arruda disent quelque chose d'autre. Là, ça te met à terre et ça fait augmenter ton niveau d'angoisse de 400%. Oh, non, marche sur les eaux. Marche sur les eaux. Mon ami, marche sur les eaux. Mon frère, ma soeur, marche sur les eaux. Mais avant, monte à la montagne. On va prier. Père éternel, on te remercie, on te rend grâce, Seigneur, parce que tu es bon et tu es fidèle, Seigneur, et il n'y a personne comme toi. Seigneur, merci pour ta parole qui est profonde et qui nous parle et qui nous montre, Seigneur, des choses qu'on a besoin, nous, d'intégrer, qu'on a besoin, Seigneur, d'appliquer, qu'on a besoin, Seigneur, de croire et d'obéir. Je te demande, Seigneur, de toucher tous les bien-aimés, Seigneur, toutes les personnes qui vont entendre, Seigneur, ce message, Seigneur, cette étude, que ce soit, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur, que ce soit pour une transformation de leur vie, parce que, Seigneur, tu nous appelles à marcher sur les eaux dans le contexte, Seigneur, qu'on vit aujourd'hui, rempli dans cette tempête globale, mondiale, Seigneur Jésus, qui amène un vent d'insécurité, qui amène un vent de dépression, Seigneur Jésus. On voit les effets, Seigneur, sur la société, sur l'état émotionnel, l'état, Seigneur, d'esprit, de la société, comment elle est affectée et attirée vers le bas, Seigneur. Mais ton Église, Seigneur, doit se tenir au-dessus des eaux, au-dessus des affaires de la vie, au-dessus des tumultes, Seigneur, au-dessus de cette pandémie et continuer à marcher parce qu'il y a du service à rendre. Il y a des gens qui ont besoin d'être servis. Il y a des gens qui sont dans le besoin et l'Église est celle qui doit répondre, Seigneur, à ses besoins. Alors, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole, pour les instructions que tu nous donnes, l'enseignement, que nous puissions, Seigneur, expérimenter le surnaturel cette semaine. Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui vont prendre à cœur de monter la montagne, d'aller à la rencontre avec toi, puissent voir, Seigneur, et témoigner du surnaturel dans leur vie, au-delà, Seigneur, d'une simple émotion. Au-delà, Seigneur, d'une simple philosophie, c'est le Dieu de gloire en action. C'est le Dieu de vérité, le Dieu de grâce, le Tout-Puissant, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le Dieu de paix qui agit et qui intervient dans chacun des tumultes, dans chacune des situations, pour la gloire de ton nom. Sois béni, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, pour ce temps que nous avons eu ensemble, Seigneur, et bénis ton peuple. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine. N'oubliez pas demain matin la bénédiction matinale avec le pasteur Florent. Soyez au rendez-vous 8h30 et bon restant de semaine. Invitez le surnaturel, Jésus-Christ, dans votre quotidien et marchons sur les eaux. Je vous dis shalom. Bonne soirée.